Alors, est-ce que c'est le moment? J'ai un petit son de Philippe qui nous envoyait, enfin, nous faire une petite pause, qui nous envoyait parce qu'il tenait absolument à être là. C'est pas les grèves qui l'ont retenu, c'est sa vigne. Il faisait de la taille encore aujourd'hui pour parler d'un Amarone della Valpolicella. Qui est aussi un vin liquoreux que lui nous a même envoyé la photo de la tarte aux poires avec laquelle il l'accorde. Voilà, il est avec nous par la pensée et même par le son. On va juste écouter ce qu'il nous raconte.
Salut la Terre à boire, c'est Philippe Viette à l'antenne. Pour cette spéciale Noël ou vin de fête, je voulais vous emmener en Vénétie. Donc en Italie, dans la province de Vérone, dans la Valpolicella, qui produit un vin un peu mythique qui s'appelle l'Amarone della Valpolicella, un vin de qualité supérieure hein, qui bénéficie de la DOCG. C'est un vignoble, la Valpolicella, en fait, qui est planté sur des sols argilo-calcaires. Et l'encépagement local, c'est donc Corvina, Molinara, Rondinella, un peu de Corvinone aussi. Alors, il faut savoir que l'Amarone, c'est un vin de paille. Donc, on va utiliser la technique du passerillage pour produire ce vin. Donc, on va sécher des raisins pendant une centaine de jours sur des claies en paille au soleil pour laisser en fait toute l'eau s'évaporer et laisser les raisins se concentrer. Il va même se former sur les raisins de Corvina, du botrytis, c'est-à-dire de la pourriture noble. Et donc, ce qui est la caractéristique de ce vin, c'est qu'effectivement, on a un vin qui est botrytisé et un vin très concentré en sucre, mais qui va à la fin produire un vin sec avec un degré d'alcool très élevé. Allez, il faut compter entre 14 degrés et 16 degrés et demi. Pour des amaronnés. Donc vous pouvez vous retrouver à la fin avec des résiduels entre 3 grammes et 12 grammes, mais pourtant vous aurez un vin sec. Alors, donc une fois que ces vins sont passerillés pendant 100-120 jours, eh bien a lieu la vinification du vin, c'est-à-dire que les raisins donc sont pressés, foulés, et le jus part en fermentation pendant une vingtaine de jours, puis s'ensuit un élevage dans des contenants en bois pendant au moins 2 ans, puis une mise en bouteille, et le vin va rester en bouteille pendant au moins 6 mois avant d'être mis en commercialisation sur le marché. Alors, je vous ai ouvert moi une bouteille d'Amarone della Valpolicella d'un domaine qui s'appelle Zanoni, Pietro Zanoni, qui est au nord de Vérone. C'est en 2011, la cuvée d'Ovo. Et donc, j'ai devant moi, en fait, dans le verre, un vin avec une couleur très profonde, un rouge grenat très profond, très intense, avec une robe vraiment prononcée. Et un nez incroyable, très aromatique, très puissant. On sent qu'il y a une vraie densité au nez. On sent le tabac, on sent la griotte, des arômes torréfiés. C'est impressionnant. Alors, ce qui est notable dans ce vin, c'est la densité, la structure, le velours qu'on sent à la première gorgée. Et en même temps, avec 16,5 de degré alcoolique, on penserait que le vin est plat et éventuellement très lourd, mais il y a une fraîcheur incroyable dans ce vin, qui sans doute est conférée par, je dirais, les sols argilo-calcaires sur lesquels les cépages de la Maronnaise sont cultivés. Et effectivement, en bouche, on retrouve ces arômes de torréfaction, de chocolat, de cerise à l'eau de vie, griotte, de tabac, Et puis cette amertume aussi, si caractéristique, c'est un vrai délice. Et moi, pour accompagner ce vin, eh bien, j'ai confectionné un gâteau au chocolat aux poires et à la poudre d'amande. Parce que, en fait, je pense que c'est un mariage très intéressant avec le chocolat. Et le mariage est parfait. Et puis, les poires, la fraîcheur et l'acidité de la poire qui vient trancher un peu avec la densité du vin, et donc qui donne ce petit peps supplémentaire. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite un excellent Noël à tous, de très belles dégustations pendant vos fêtes, et puis évidemment le tout avec modération. À très bientôt, je vous embrasse tous.
Partout, ça suivi, hein.
Décidément, cette modération.
Mais poursuivre par modération. Hein.
Merci Philippe pour ce petit mot en direct de Régnier dans le Beaujolais. Valpolicella, ça vous parle? Alors, le petit truc quand même, c'est que c'est un vin rouge.
C'est pas Valpolicella, c'est Amarone.
Amarone de Valpolicella.
De la Valpolicella. Parce que Valpolicella, ça existe aussi. C'est tout rouge, c'est sec. Amarone de la Valpolicella, c'est rouge, mais c'est sucré.
C'est la version moelleuse. C'est rouge, voilà.
C'est voilà. Rouge.
Par contre,
mais c'est pas
ce qu'on a goûté jusqu'ici.
Il ne faut pas laisser entendre
c'est
que
pas
c'est
très, très sucré.
C'est hein. Dans entre le demi sec et le
demi doux.
Et le demi doux, c'est ça, exactement.
Si on l'avait dégusté, on l'aurait placé où là dans notre wine list?
J'aurais commencé avec moi.
Sur un liquoreux. Après le wrestling.
Après le wrestling, quand même, moi.
Oui, peut-être après le wrestling.
D'accord.
Au vieillissement, ça mange un peu ses sucres. C'est un fantastique vin de gibier, un fantastique vin de gibier, de choses comme ça.
Avec une carbonade. Non.
D'accord, italo-belge. Ouais.
Je pense que ça se défend beaucoup.
Il y a de la bière dans la carbonade, oui.
Il y a de la bière brune, mais il y a aussi un peu de cassonade. Donc, tu vois, ça te...
Oui.
Mais alors, c'est sucre sur sucre.
Tu disais... De cassonade, de vergeoise, pardon. Voilà.
Tu disais, Jérôme, que c'est une spécificité italienne de faire des vins doux sur du rouge. Pas des vins doux, justement, mais des vins moelleux,
oui,
naturels.
En fait, en France, on n'a pas de vin rouge, à part exception, dans des millésimes un peu totalement hors normes, en Vallée du Rhône. Mais il n'y a pas en AOC une production de vin rouge moelleux, ça n'existe pas.
Moi, j'ai dit Mori, mais tu m'as repris, c'est du vin doux naturel.
Oui, c'est un vin doux naturel, c'est un vin muté.
Les vins naturels et les vins liqueurs, ce sont des vins mutés, donc ce sont des vins sur lesquels on ajoute de l'alcool neutre pour stopper la fermentation et pour garder les sucres résiduels. Après, la différence, c'est à quel moment, vin doux ou vin de liqueur.
Est-ce qu'on le fait avant la fermentation ou après la fermentation?
Pendant.
Avant,
c'est une mistelle, vin de liqueur.
Qui veut dire mélange d'ailleurs en italien.
Oui, exactement.
Je ne sais plus si c'est le quatrième ou le cinquième. Si on compte celui de Philippe, ça doit être
le
cinquième. Ouais, exactement. On arrive sur un vin bon, un petit peu exceptionnel quand même, Bertrand. Ce que tu nous as apporté là.
Alors, j'ai apporté un Château Coutet, qui est un Barsac millésime 1975.
Oh
tout simplement parce que c'est ton année de naissance, mon cher Romain.
Oui,
pardon, je suis désolé. Mais
oui. Ça y est, tu dévoiles des secrets. Toutes ces auditrices qui m'écrivent et qui croient que j'ai 22 ans.
C'est fini. Aussi l'année de naissance de Patrice, hein, tant qu'on est à balancer. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ah oui.
Je balance, c'est presque l'année de naissance de notre invité. Voilà. À un an près. Vas-y.
Ah, je ne savais pas. Moi, ouais, c'est bien fait. Enfin,
mais moi, c'est 74, moi, donc c'est à un an près.
Pour le clin d'œil. Il se trouve que j'ai ça chez moi. C'était un coup de bol, hein, on ne va pas se mentir. Je voulais aussi montrer que les vins blancs, les vins sucrés se gardent de manière exceptionnelle.
C'est une des qualités du sucre aussi.
Bah oui, ça conserve. Donc c'est sûr que c'est. Patrice fait des grands gestes en disant regarde comme ça se conserve.
Regarde comme ça le sucre.
Non mais donc comme quoi on peut être de 1975 et en pleine forme. Hein, donc Romain et Patrice nous le prouvent tous les jours. Mais ce Château Coutet aussi. Et c'est vrai que. C'est aussi ça qui est magique dans le vin, c'est qu'on peut goûter des breuvages qui ont plus de 40 ans et qui sont encore fabuleux. Et donc là, on est à Barsac, donc c'est l'appellation voisine de Sauternes, Sauternes qui prend un peu toute la lumière, mais bon, il y a Barsac qui est là. Même schéma que dans le Layon, donc c'est-à-dire que c'est le fameux petit champignon, le Botrytis cinerea, qui fait son apparition, donc grâce au sirop qui se met dans la Garonne et qui crée justement ce brouillard matinal et puis les fortes chaleurs de l'après-midi et donc qui permettent ce champignon. Et donc là, on a un vin qui
magnifique.
Qui est riche, qui est opulent.
Et qui a mangé ses sucres en 75.
Voilà.
Ouais.
Et donc pas de lourdeur. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on a toujours cette impression de que ce soit à Pacherin, enfin que ce soit dans les vignobles du Sud-Ouest ou dans le Bordelais, qu'on va être écœuré, on va être vraiment, on va boire des trucs hyper lourdingues. Quand c'est bien fait, non quoi. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi gourmand, ça peut être relativement frais et ça peut être aussi sympa. Donc l'avantage de goûter des vieux vins, c'est aussi que du coup, t'es sur des arômes un petit peu différents. Donc là, on est assez loin hein, de la fraîcheur, du côté fringant du Pacherin qu'on a goûté juste avant, ce fruité très exubérant. Là, on est plus sur des notes de fruits secs, donc d'évolution, hein, typique de l'évolution, sur du fruit sec, sur de l'amande, sur des épices. On a des petites pointes de muscade, de girofle. Et ça, c'est des arômes voilà, qui arrivent après, quoi, hein, donc, qui arrivent en général pas dans la jeunesse du vin. Donc voilà, donc après Château Coutet qui est un premier grand cru classé de Sauternes, on parle toujours du classement de 1855.
Quelle différence entre Sauternes ou Barsac ?
Alors, c'est en appellation Barsac, qui est une appellation voisine de Sauternes, mais le classement de 1855 concerne les deux appellations, Sauternes et Barsac.
Et du reste, Barsac peut revendiquer Sauternes, ce qui n'est pas le cas inversement, Sauternes ne peut pas revendiquer Barsac.
Exactement, tout à fait. Donc ouais, le classement de 1855 concerne les vins rouges du Médoc sur un premier tableau, et puis aussi les vins de Sauternes et Barsac sur un deuxième tableau. Là, la hiérarchie est un petit peu différente. Il y a un premier cru supérieur, c'est le château d'Yquem, et ensuite il y a des premiers crus et deuxième cru. Ça va pas jusqu'à 5 comme pour les vins rouges du Médoc. Donc là, c'est un premier grand cru de Sauternes. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que c'est un premier cru de Sauternes à 75 que c'est forcément hors de prix. C'est très bon et relativement accessible pour un vin de cet âge vénérable.
Un très beau vin d'ailleurs. Ouais, ça, la couleur, ça, hein, c'est l'avantage. Alors, des vins blancs liquoreux, c'est que tu lis l'âge un peu sur leur,
ouais,
sur leur gueule.
Ça, rien que pour la couleur, c'est vrai que ça vaut le coup de faire vieillir ces vins blancs liquoreux, parce que c'est vrai qu'on peut passer par une palette de couleurs absolument incroyable dans leur jeunesse, juste sur un or pâle jusqu'au marronasse pour ceux du début du XXe siècle. Mais là, on est sur vraiment... de l'oranger, enfin du c'est plus du vieil or, là on est vraiment sur du
un peu ambré, non?
Ouais, ambré, on est vraiment sur de la forêt de châtaignier en plein automne, quoi. C'est un truc assez flashy,
ouais, c'est
et,
très beau, ouais.
Et rien que pour la couleur, c'est vrai que ça vaut le coup.
Et puis c'est quand même autant j'ai toujours un peu de mal à goûter des Sauternes jeunes parce que je trouve que c'est très encombrant en bouche, il y a énormément de sucre, mais c'est un vin qui vieillit extraordinairement bien et c'est quand même un très grand vin liquoreux. Là, 75, moi j'aime beaucoup encore. Alors, pour le coup, j'aime aussi les vieux vins. Donc là, je suis absolument comblé avec une bouteille comme ça. Parce que vraiment, tout cet élevage qui est assez prégnant quand les vins sont jeunes se font beaucoup dans le vin. Là, on a une espèce de finale qui rappelle un peu le pain toasté. C'est le souvenir d'un élevage. C'est le souvenir du passage en barrique qui se rappelle à nous là en fin de bouche. Pour le reste, il y a une intégration du sucre, une acidité qui ressort, l'équilibre est magnifique. Hein. Dans un millésime qui, pardon Romain et Patrice, qui n'est pas le plus grand millésime du siècle non plus, je peux en parler à 16 ans, parce que moi je suis né en 74, donc autant vous dire que c'est totalement pourri à peu près partout, à part en Corse. Mais voilà, c'est vraiment un très beau vin, très beau vin.
Merci.
Ce qui est joli et agréable et qui mérite de mettre ce genre de budget dans ses bouteilles pour les fins d'année, c'est la force qui reste à ce vin. Et on sent un peu comme chez des personnes âgées qu'on adore, que la vie se bat pour rester dans ce vin. Et on sent cette force. Et là, ça dégage beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment une excellente raison de dépasser son budget habituel.
Tu l'as dit le prix là ?
Quelqu'un non, je ne l'ai pas dit.
Absolument alors. Se faire plaisir avec un vin comme ça. D'abord, est-ce que ça se trouve ?
Ça se trouve probablement ça dans des ventes aux enchères.
Sur les ventes aux enchères.
Ouais, ça se trouve. Et les ventes aux enchères sont pleines de vieux millésimes de liquoreux, justement parce que ça ne se vend pas.
Oui, justement. Donc, finalement, il y a des bonnes affaires à faire.
Bah, si on aime ça, faut y aller franchement. Et on peut trouver des vins de 75. Donc là, j'ai regardé.
Alors,
la
ce qui est marrant, c'est que c'est un vin de 75, mais qui fait 73 centilitres.
Ouais, c'était la centilisation traditionnelle avant 1900, tout début des années 80.
Alors, d'accord. Les gens qui ne sont pas comme tout le monde et qui ne succombent pas au bandwagon effect et qui aiment le sucre en ce moment peuvent faire des peut faire des achats vraiment intéressants sur Internet, apparemment.
Bertrand, tu disais que tu as regardé la cote.
Le fromage, c'est...
Alors avant de parler, ouais, c'est juste, je vais être un peu vulgaire. Hein, non,
mais non, mais c'est juste histoire de prix. Et puis juste, après, on parlera du fromage.
J'ai regardé la cote avant de venir. Je crois que c'est 65 euros, un truc comme ça.
Ce qui est dérisoire pour un vin comme ça, c'est dérisoire.
Bah voilà. Donc
aller chercher un 75 en rouge en Bordeaux à ce prix-là.
Et ouais. Alors, et on va le payer très cher, et il sera pas forcément bon.
Et ce sera pas super.
Non, parce que c'est pas un si grand millésime que ça.
J'aime bien ce que disait Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment c'est cher pour une bouteille, mais si tu te mets à 4 ou 5... Finalement, chacun paye le prix d'une bouteille et tu t'offres une émotion, enfin voilà, un vin un peu exceptionnel.
Bah, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, les accords, hein. Qui c'est qui se lance alors
moi, je disais sur le fromage, ouais. Sur la forme, c'est extra. Arrêtez de gâcher vos fromages en mettant du rouge super tannique et super lourd. Si vous sortez un bleu, mais sortez
sur le
votre.
Roquefort, c'est incroyable.
C'est incroyable. C'est là où c'est le plus bel accord et c'est vraiment formidable.
Tu sais, quand cette fameuse alchimie, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais où 1 plus 1 fait plus que 1, quoi. C'est-à-dire que t'as un vin d'un côté, t'as un fromage de l'autre, et puis ça donne autre chose.
Une troisième chose.
Tu dis pas, il sublime le vin ou le fromage. Non, c'est juste. Bah, en fait, y a un truc qui se passe.
C'est comme
quoi.
Si t'as, en fait, t'as le fromage, mais t'as une grappe de raisin, un peu de noix et du vin. C'est un peu ça, en fait.
Un petit côté noir, oui, c'est vrai.
Non, mais, ouais.
J'avais cherché pour l'accord une tarte aux noix avant de venir, et puis bon, je n'ai pas trouvé.
Bah, tu l'as trouvé avec le Gouda aux truffes. C'est quand même le premier vin qu'on goûte qui a la vitalité nécessaire à résister au Gouda aux truffes, qui, à mon avis, a un petit peu d'arôme de truffe et pas seulement de la truffe naturelle. Et donc, ça emporte un peu le palais. Et ce vin répond, ça, c'est un petit tour de force. C'est une belle conversation.
Surtout les fromages. Franchement... C'est vraiment celui qui a le meilleur caractère pour aller avec les fromages.
La tome aux fleurs, par contre, disparaît un petit peu.
J'ai pas goûté avec la tome aux fleurs, mais sur le parmesan, sur le roquefort, sur le bleu d'Auvergne,
c'est formidable.
C'est vraiment très chouette.
Merveilleux. Merci Bertrand pour ce cadeau.
Ben non, mais avec plaisir. Merci en beaucoup. Plus, ouvrir une bouteille de vénérable, c'est toujours un peu risqué. On se demande un peu ce qu'on va trouver. Donc, en plus, quand ça se passe bien, c'est encore plus satisfaisant.
Moi, et tu as fait plaisir à Jérôme.
Et ça fait encore plus plaisir.
Et ça, c'est pareil, faire plaisir à l'invité. Ça n'a pas de prix. Merci Bertrand. Mais en plus, je rebondis là-dessus, mais il y a vraiment une question de avec qui. Tu sais, t'es dans la cave et tu regardes. Et attends, est-ce que il y a un truc c'est presque. Est-ce que cet invité-là mérite que je sorte telle ou telle bouteille? Des fois,
est-ce qu'il va l'apprécier?
Est-ce qu'il va l'apprécier? Oui. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça.
C'est pour ça que
est-ce qu'il va l'apprécier? Et puis des fois, on est déçu. Et puis des fois, on se dit ah mince, lui qui aime le vin, il aurait mérité que je sorte un truc meilleur de la cave. Et c'est toujours un casse-tête à descendre dans la cave et de regarder.
C'est le problème. Moi, j'ai quasiment plus que des bonnes bouteilles dans ma cave.
C'est pour ça qu'on t'invite en ce moment.
Non, mais parce que, voilà, tu te dis, ça, non, c'est juste un pote, machin. Et puis, du coup, tu ouvres un truc un peu plus banal. Et puis, tu te dis, ça, je vais le garder. Au bout d'un moment, y a plus que des trucs très bons dans ta cave et qu'il faut boire. Et puis là, je suis en train d'ouvrir des bouteilles qui sont déjà passées et je suis dégoûté. Donc, voilà. Donc, oui, buvez vos bonnes bouteilles. Allez-y, faites-vous plaisir.
Non, la meilleure solution, c'est de les faire à l'aveugle. Tu verras, ce Bordeaux, il est extraordinaire, tu vas adorer. Non, en fait, c'est un château musard du Liban, mais je ne voulais pas te le dire pour pas que tu aies d'a priori. Et ça marche.
Très bien, ça marche très très bien même, je suis bien d'accord.
C'est un vrai bon vin, ça, le château musard
c'est
du
très
Liban
bon musard, oui.
C'est trop bon, mais c'est trop difficile à trouver.
Très difficile.
C'est pas un liquoreux, hein?
Non,
c'est pas un liquoreux, désolé.
Il y a un an et demi, il y avait la famille Hochard. Pas très longtemps après la mort de Serge Hochard, qui était le patriarche, avait organisé une dégustation d'un certain nombre de millésimes de Musard. Et j'avais pas pu y aller, j'étais vert, parce que j'avais noté. Et au dernier moment, je n'ai pas pu y aller. Et j'étais très déçu, parce que c'est un vin que j'aime beaucoup. C'est un vin assez rare, mais j'aime beaucoup.
Ce sera pour l'émission spéciale vin étranger. On en avait parlé.
Ouais, il y en a plein des émissions. Est-ce que. Alors, il y a un truc aussi avec les vins moelleux, c'est qu'on peut les ouvrir, on n'est pas obligé de les boire tout de suite. Est-ce qu'une fois ouvert, on peut les garder un petit peu?
Ça dépend.
Ou est-ce que ça disparaît
quand
même?
Le sucre, pas plus ça qu'un... conserve, mais ça ouvert, dépend.
Non, après, il y a souvent. Pardon.
Tu veux dire qu'il va falloir qu'on finisse toutes les bouteilles, là?
Exactement, oui. C'est ce que je suis en train de dire.
ça, c'est un truc.
Ça, c'est une espèce d'énorme entourloupe, parce que la réalité, c'est que ça se conserve très, très bien en bouteille. Ah. C'est juste pour qu'on torche les bouteilles ce soir. Non, non, là, je suis désolé, là, je t'ai trahi.
Ça dépend, en fait, ça dépend. Le sucre conserve, donc ouais. Ça se garde mieux. Maintenant, il y a quand même quelques petits trucs à faire. Je pense que le bouchon pompe, c'est quand même le minimum pour
enlever l'oxygène.
Ouais, pour enlever un peu l'oxygène. Et du coup, si vous mettez le bouchon pompe, ça tient bien 2 semaines dans le frigo, sans problème.
Ah oui, ce qui n'est pas le cas d'un rouge ou d'un blanc classique. Hein.
Ouais.
Revenons à nos moutons, à nos vins moelleux. On change un petit peu de catégorie et on va terminer notre dernière ligne droite. Elle est sur le chemin des vins doux, de ces vins mutés. Alors là, ça reste du raisin, ça reste des vignerons, des vignes. Il y a juste une opération qui est un petit peu différente. Comme tu le décrivais tout à l'heure, Florence, on ajoute avant la fermentation ou pendant la fermentation, on ajoute de l'alcool neutre pour stopper la fermentation et ça donne des vins doux naturels.
Oui.
C'est comme ça qu'on les appelle en France, en tout cas. On n'est pas les seuls à faire ce genre
de vin.
Ou vin
de liqueur.
Ou vin de liqueur, c'est ce que tu as dit tout à l'heure.
Voilà, tout dépend du moment. On met
l'alcool. Et celui-ci, donc ?
Alors,
jolie bouteille.
Celui-ci, c'est Douceur Carmin. Alors, Douceur Carmin, pourquoi j'ai voulu vous rapporter Douceur Carmin ? Parce que ça vient de la Loire, déjà, d'abord.
Tu sais que Jérôme est un grand fan de Chenin et un grand fan de la Loire.
Et puis, parce qu'il y a eu une histoire originale sur le domaine. Donc, les propriétaires, c'est Levron et Vincenot. Le domaine, c'est le château de Parnay. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Château de Parnay, en fait, Levron et Vincenot, ils l'ont repris en 2006. C'est quand même un grand domaine, hein, c'est 50 hectares, hein, donc c'est assez immense pour la vallée de la Loire.
C'est dans quelle AOC ? C'est Saumurois ?
Saumurois, oui. Saumurois. Et en fait, ce domaine-là appartenait à Antoine Cristal. Et monsieur Antoine Cristal, c'est le créateur du clos entre les murs.
Notre invité, hoche de la tête.
Ah oui, évidemment.
Tout de suite, évidemment. Oui. J'explique. En fait, le monsieur, il a fait un clos où il a fait des murs tout autour d'environ 2 mètres. Et à l'intérieur de chaque rang de vigne, il a fait des murets et des murets en tuffeau. Et c'est-à-dire que vous avez le pied qui est planté face nord. Et vous avez un trou dans le mur et le parti végétal qui est exposé, qui passe par le trou dans le mur et qui est exposé plein sud, en cépage chenin. Si vous avez l'occasion, c'est assez formidable, c'est assez
exceptionnel. L'idée, donc, c'est de ramener de la chaleur sur le mur.
Garder le pied au frais et mettre la partie végétale au chaud le long du mur à la face sud. Et ça fait un chenin magnifique. C'est un domaine que j'aime bien parce que c'est classé en agriculture biologique depuis 2013. Il faut savoir que le Clos des Murs est classé monument historique depuis 2011. Et sur ce vin-là que l'on va goûter, c'est du gros lot. C'est une parcelle de gros lot. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, ce gros lot est utilisé pour la fabrication des rouges du domaine. Et ils ont oublié une petite parcelle. Ils ne l'ont pas vendangée. Et donc, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il est trop tard. On vendange ou on laisse tomber ? Ils ont dit, on vendange, on verra bien. Ils ont vendangé, ils ont mis à part. Ils ont fait, c'est sucré quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, ils se sont dit, mais c'est pas mal, sucré comme ça. Allez hop, on mute direct et on va en faire un vin comme ça. Donc, il y a un élevage, hein. Il y a un vieillissement de 4 ans. Hein. C'est un millésime 2011. Donc, pour vous dire pourquoi ça a été oublié parce que ça a été récolté le 23 novembre. Et on a un vieillissement de 4 ans en barrique. Et voilà, ça donne ça. Je vous laisse goûter et en parler.
Bah, c'est très particulier. On est assez désarçonné parce que, d'une, le gros lot en soi, on le goûte rarement seul. C'est un cépage dit accessoire de la Loire qui est rarement vinifié tout seul. Et puis encore moins comme ça, quoi. Donc en sucré et muté, ça donne. C'est très très particulier. Donc on a un nez un petit peu épicé, on a du fruit rouge, ça laisse un peu perplexe. Il y a un côté un peu réglissé aussi qui fait un peu penser à du rasto, enfin des vins du sud de la vallée du Rhône. Et c'est voilà, moi je suis perplexe pour le moment.
Ouais, cerise, groseille, réglisse, t'as les marqueurs principaux.
Très étonnant.
C'est un truc que j'aime beaucoup et c'est quelque chose que j'aime bien mettre à la carte sur les desserts. On a un super dessert avec un peu de chocolat, mais grué de cacao, donc sur l'amertume, hein, pas sur la douceur du chocolat, et avec de la fève tonka. Et ça matche bien avec grue et cacao et fève tonka.
Parce qu'effectivement, ce qui semble caractéristique des vins de Loire sur les vins sucrés ou mutés, c'est le côté amertume. C'est-à-dire que ce qu'on a plus sur les vins liquoreux ou sucrés rouges par rapport aux blancs, en général, visiblement, c'est qu'il y a un degré de tanin et donc un degré d'amertume qui est un petit peu supérieur au vin blanc. Donc là, il y a un petit peu d'amertume, effectivement.
Là, moi, je trouve que la texture est belle, l'aromatique est jolie. C'est marrant parce que je trouve que le boisé est très marqué et à la fois très, très enrobé en fait par l'aromatique. On l'a en bouche, le bois. Et c'est marrant parce que on ne sait pas si c'est élevé en fût neuf ou pas.
Je ne sais pas ça.
J'aime bien. Je trouve que c'est. Il y a un très joli fruit. On retrouve. C'est un cépage que j'aime beaucoup, le gros lot. Ça donne des très jolis vins. C'est d'ailleurs bien dommage qu'on ne l'ait pas plus souvent pur, parce que ça donne des très jolis vins. Ça peut donner des vins de soif extraordinaires, mais ça peut donner des vins un peu plus corpulents aussi. Donc ça fait, c'est un cépage assez intéressant. Et là, j'aurais été incapable de situer ce vin. Incapable de situer ce vin. Il y a un très joli fruit, il y a une belle liqueur, il y a du gras, il y a de la richesse, c'est confortable, il y a une vraie gourmandise. Et puis, il y a ce bois qui est sous-jacent, que je ressens un peu fortement. Mais d'habitude, ça me dérange beaucoup. Puis là, ça ne me dérange pas beaucoup. Et je me dis surtout, mais alors, il faut absolument aller enterrer ce vin au fond du jardin et le déterrer dans 15 ans, quoi, parce qu'il a un potentiel absolument formidable.
Le truc, c'est que c'est un one-shot. Hein.
Ouais, c'est ça qui vient de
2011, ouais. Point, barre.
Voilà. Ils l'ont fait qu'une fois.
Oui.
Ils ne se sont pas dit l'année d'après, si on l'oubliait.
On parlait de, puisqu'on parlait de Château d'Heidi, puisqu'on a goûté le Pacherinck de Vigbile,
ouais.
Ils font le Maïdi, ils font un rouge en vin de liqueur, un petit peu dans le même esprit. Je ne sais pas l'histoire de Maïdi, si c'était un raté plus ou moins.
Non, c'était d'après ce qu'ils ont eu une envie de le faire, parce que ça les faisait marrer. En fait, ils avaient envie d'essayer.
Voilà, eux, ils le font tous les ans.
Oui.
Alors que la douceur carmin, c'était voilà.
C'est le succès de la cuvée qui a fait qu'ils l'ont fait tous les ans en fait.
Ouais.
La première, elle s'est vendue comme des petits pains. Ils se sont dit bah tiens on va recommencer. Ils en ont fait un petit peu plus. Et voilà. Non là c'est vrai que c'est je comprends que ce soit un one shot parce que d'abord c'est pas vraiment la région pour le faire. Enfin, c'est très particulier.
C'est les conditions qu'on fait.
Mais on a vraiment envie de à la fois de le boire là et puis de se dire tiens faudra en mettre 6 bouteilles ou 12. Au fond du jardin pour les faire vieillir parce qu'il y a un potentiel formidable.
Qu'est-ce qui va se passer dans la durée? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vieillissement? Dans le vieillissement de ce vin?
Je pense à probablement une aromatique qui va glisser un peu vers les fruits macérés. Là, on est plutôt sur des fruits c'est presque frais, je trouve.
Mmh. Oh, c'est très frais. Hein.
C'est assez étonnant. Donc, ça va glisser, j'imagine, vers des fruits un peu macérés. Ce bois que je perçois là, je l'imagine, je l'espère en tout cas glisser vers ce très beau côté toasté qu'on avait dans le.
Il va se fondre davantage. Et,
oui.
Mais c'est intéressant dans la jeunesse. Hein. Là, ce que tu nous sers, Florence, c'est terriblement sucré. Mais il y a un côté effectivement tannique, vu les dégustations précédentes de blanc, ça nous saute un petit peu au palais. Et ça a un côté très gunpowder à la menthe, tu vois, thé vert à la menthe. Il y a une finale herbacée, enfin c'est très intéressant dans la jeunesse. Et effectivement, c'est prometteur pour la garde.
Moi, ce que je trouve rigolo, c'est que quand même, il faut bien avoir 50 hectares pour oublier de vendanger une parcelle. C'est pas les petits vignons qui ont 2 hectares qui oublient ce genre de truc. Et la deuxième chose, c'est que tu disais tout à l'heure hein, que ça se boit dans sa jeunesse. Quand on parle de sucre, la jeunesse est 2011. Tu dis c'est un vin jeune. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'on oublie ça, mais effectivement.
Dans sa relative jeunesse, oui.
Bah ouais, mais du coup, il a l'air fringant, mais il faut pas oublier qu'il a déjà 8 ans. Mais oui,
il faut pas oublier qu'il a déjà 8 ans. C'est comme les chiens.
Dès qu'on parle de sucre,
ça fonctionne pas sur le même calendrier.
Mais c'est exactement ça. Dès qu'on parle de sucre, vraiment, le temps s'étire et comme des fils de caramel.
Puis ce désir de l'oublier dans un fût pendant 4 ans, quoi.
Très intéressant, très amusant.
Super découverte, ouais.
Belle découverte. Merci Florence pour cette découverte. Allez, on va terminer avec un Porto.
Eh ben oui, avec un grand classique. On peut pas parler vin doux nature, enfin vin muté rouge sans parler de Porto. Porto d'ailleurs qui est une des la plus ancienne AOC du monde. C'est un vocabulaire sur les étiquettes. Quand vous voyez une étiquette de Porto, ça va être très anglais parce que les Anglais historiquement sont les premiers commerçants. Les Anglais pendant très longtemps nous ont fait chier avec leurs bateaux. Non, mais ils étaient des très très grands exportateurs.
Pas complètement faux non plus. Non, mais ça, à force de voguer à gauche, forcément, c'est facile.
Donc, ils ont fait beaucoup pour la commercialisation des vins de Porto. Donc, un peu comme dans le cognac, vous verrez beaucoup de mots anglais sur l'étiquette. Donc, vous avez par exemple les rubis. Donc, rubis, ça désigne la couleur et qui vont être des Porto très jeunes, vraiment sur la fraîcheur du fruit, le fruit rouge. Et donc, ils sont des Porto d'assemblage, donc de cépages et d'années différentes. Élevé 2-3 ans et après mis en bouteille et le but c'est vraiment d'avoir un vin assez frais, assez vif. Ensuite vous avez les Porto d'assemblage dit Tony, donc Tony là aussi ça désigne la couleur, c'est un peu moins évident mais en fait Tony en anglais ça veut dire orangé en gros. Donc là c'est des Porto d'assemblage de différentes années et qui eux ont été vieillis plus longtemps, d'où une couleur voilà, qui marque un petit peu l'évolution et qui eux vont être moins sur le fruit mais plus sur le côté fruits secs, un petit peu épicés, voilà, comme beaucoup de vins avec l'évolution. Donc ça, c'est pour les Porto d'assemblage. Et ensuite, vous avez des vintage. Donc il y a les vintage, les Porto vintage tout court, donc, qui sont des vins assez puissants, assez riches, alors sucrés bien sûr, hein, mais avec des tanins assez présents. Donc là, on est plus sur des vins qu'il faut servir à table avec un plat salé. Et vous avez donc qui ont une capacité de garde absolument phénoménale, hein, qui est décuplée par le sucre, on en parlait. Et vous avez donc ce qu'on appelle les LBV, donc Late Bottled Vintage, n'est-ce pas ? Je te remercie. Qui sont donc des vins, comme son nom l'indique, des vins qui sont mis en bouteille tardivement, donc c'est-à-dire qu'on les fait vieillir en foudre en général. Pendant 4 à 6 ans, on va dire, et ensuite on les met en bouteille et ils sont prêts à boire.
Couleur est extraordinaire.
Donc,
on continue.
Aussi bien sur les. En fait, il faut vraiment distinguer les Porto d'assemblage et puis les vintage. Que ce soit des LBV ou des vintage, on a des vrais vins. Il ne faut pas oublier que le Porto, c'est avant tout un vin et qu'il faut déjà le traiter comme tel, hein, c'est-à-dire que ça se boit pas trop chaud, hein, 18 degrés max.
Quel cépage, du coup ?
Oh, je les ai oubliés. Hein, c'est des noms c'est portugais.
Déjà, il y a Touriga National.
Il y a Patin Taroris. Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga National.
C'est pas portugais traditionnel, donc c'est plutôt des assemblages.
C'est Touriga National, c'est le grand cépage rouge portugais. Tinta Roriz et Tinta Barroca aussi.
Mais oui, c'est quasiment toujours de l'assemblage de cépages hein, après, des cépages locaux classiques. Donc ouais, c'est faut le traiter comme un vin, donc c'est-à-dire que d'une, quand on ouvre la bouteille, il faut la boire. On en parlait tout à l'heure, mais c'est-à-dire que il faut arrêter avec ce Porto qu'on oublie dans le placard de mamie et qu'on rouvre l'année prochaine. Non, mais enfin bon, alors même si ça va pas être comme du vin rouge classique dans le sens où ça va être buvable.
J'ai pas passé la même journée avec mamie, mais sinon.
Laissez les mamies en dehors de ça, s'il vous plaît.
Alors, sans parler de mamie.
C'est les fêtes, on voit les mamies, on les embrasse. Voilà.
Bisous.
Bisous
mais ce que je veux dire, c'est que certes, ça ne va pas se comporter comme un vin rouge classique, c'est-à-dire que ça ne va pas tourner vinaigre, ça ne va pas être affreux, mais c'est juste que ça n'aura plus aucun intérêt, ça va perdre tous ses arômes. Je referme la parenthèse. Et ensuite, c'est des vins qu'il faut aussi servir comme un vin rouge classique. Alors certes sucré, mais comme un vin rouge. Et donc, peut-être pas les boire en apéritif, mais les accorder aussi. Et là aussi, il y a des possibilités phénoménales. Donc, parce que c'est des vins qui, en plus d'être sucrés, là, on peut avoir un certain tanin. Donc, on sent les tanins derrière. Mmh. Et donc, ça peut, là, on peut ouvrir toutes les portes des accords parce que, sur des viandes, sur des plats un petit peu travaillés, ça peut être intéressant.
Moi, j'ai deux remarques. C'est la première fois que je bois un Porto comme ça, qui a autant de tanins, de puissance, d'arômes. J'aime bien le Porto habituellement, mais il y a aussi la couleur. Il a une couleur magnifique, hyper intense, très sombre, très vin. Il n'y a pas le côté marron de souvent le Porto un peu brûlé, là.
Non, parce que ça reste un Porto réducteur, pour reprendre ce que disait...
L'oxydoréduction.
Bertrand, c'est les deux grandes familles, c'est réducteurs oxydatifs. Les réducteurs, c'est ce qu'il a cité, c'est les rubis vintage LBV. Et les oxydatifs, c'est les Coleita, les Taoni. Donc là, c'est l'archétype du Porto qui est effectivement mis en bouteille assez jeune, peu d'élevage, pas très long.
À l'échelle des vins sucrés.
À l'échelle des vins sucrés. Et donc, ouais, on a un vin qui est encore sur ces notions de gelée de mûr, de confiture de mûr un peu, et avec une vraie trame tannique. Parce que ça, c'est des vins qui sont destinés à vieillir très longtemps. En fait, c'est ça, la grandeur du Porto, c'est le vieillissement.
Donc on a ce côté aussi un petit peu épicé. Alors sur la table, on a un magret aux épices un magret séché aux épices qui est pas mal du tout avec.
Ça marche très très bien. Moi que je goûte avec chacun des vins, le petit magret aux épices. Et à chaque tranche. Fois, ça marche. Non, je avec parcimonie.
Bah c'est bien simple, n'a plus.
Non, c'est la même tranche, s'il te plaît, Patrice. Ouais, j'ai pas touché au foie gras. J'ai voulu en prendre, il n'y en avait déjà plus.
Il est là.
Il en reste. Ah bah voilà. C'est formidable.
Malgré foie gras, ça va être intéressant.
Mais c'est vrai que du coup, selon le type de Porto aussi, il faut peut-être accorder des choses différentes. Donc avec les vintage, plus effectivement une viande ou quelque chose qui va supporter des tanins relativement puissants. Sur un vieux Tony, alors on n'est pas obligé de partir dans des âges un peu délirants. Hein, un Tony, même 10 ans, c'est déjà très très bien. Et sur le Tony, sera peut-être plus un dessert au chocolat ou alors un petit peu de fruits secs, un truc à base de fruits secs. Sur le rubis, ça va être encore autre chose.
Sur le rubis, par exemple, et sur ces VDN qui sont très marqués par le fruit et peu par l'évolution, donc sur ces VDN réducteurs, il y a des accords extraordinaires à faire. Notamment, il y a une pâtisserie qui s'appelle la Forêt Noire, un gâteau qui s'appelle la Forêt Noire.
Sure.
C'est à la fois du chocolat, de la cerise.
Il y a de la cerise, oui.
Ça fait des accords de dingue. Avec un Porto sur le fruit comme ça, c'est extraordinaire.
Et j'ai oublié de donner le nom du Porto, c'est un peu con. Donc c'est un LBV, donc Light Bottle Vintage 2012 de la maison Ferreira, qui est une grande maison de négoce de Porto, enfin de Villa Nova de Gaia, comme juste en face de la ville de Porto, si vous visitez. Enfin, si vous voulez m'emmener d'ailleurs, vous pouvez, parce que j'y suis jamais allé, mais en tout cas, les photos ont l'air très belles.
Et on rappelle l'existence des Mori et des Banyuls dans notre bel hexagone qui fonctionneront bien aussi. Exactement. Le Grenache ayant toutes ces petites notes de final cacao, très fruits rouges en milieu de bouche, donc ça marche très très bien avec ta Forêt Noire, Jérôme aussi.
Ouais, là, j'ai récemment fait pour un client une dégustation, on faisait vin et chocolat et j'avais des ganaches, j'avais une ganache à la framboise. Sur laquelle j'ai mis un Mori Vendange 2016 de chez Robert Poudrou, qui est un domaine que j'aime beaucoup, qui fait des très jolis Mori avec des sucres bien intégrés. Il y a du sucre. Moi, j'aime bien les vins sucrés. Hein. C'est comme les desserts. J'aime bien les desserts sucrés. Si c'est pour des desserts pas sucrés, ça, le projet ne m'intéresse pas. Je veux faire autre chose. Je mange du fromage. Mais donc là, en l'occurrence, c'est un beau Mori assez fin. Et on fait des accords avec des fruits rouges et ou du chocolat. Et puis évidemment, avec des moris plus anciens, il y fait un 15 ans d'âge, ce même Robert, avec un chocolat amer, c'est une splendeur. Hein. C'est vraiment des accords merveilleux.
Donc on est sur les grenaches, c'est ça?
Oui, grenache et carignan. Alors plus rarement carignan, essentiellement grenache.
Il ne faut pas oublier aussi les muscats, hein, que ce soit du côté de Rivesalt ou de...
Ah, on est repassé.
Mais là, on
du
était
côté
en rouge, là.
Non, on est passé côté
oui, bien sûr. Enfin, sur les vins français...
Bah il est pas là, mais c'est ce qu'il avait prévu d'amener, donc je vais en parler. Laurent Wine Therapy sert régulièrement un Mori, effectivement avec une tarte au chocolat, et ça fonctionne superbement bien, ce Grenache. Et également, il y avait un Rivesalt hors d'âge, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
Ou ambré, non, hors d'âge.
Ouais, et qui est également sublime. Et là, le muscat qui part dans des notes, effectivement, c'est un blanc au départ, mais qui part vraiment dans des notes très, très colorées. C'est également superbe avec le chocolat ça fonctionne. Et tu avais raison de préciser, Florence, que des fois le chocolat c'est le sucre, mais bien souvent c'est aussi la mère de la fève de cacao, ce qui est un accord complètement différent du chocolat. Voilà, c'est pas du Milka, quoi.
C'est pour ça différent. Que le sucre est intéressant d'ailleurs sur les gros amers, je trouve, parce que aller mettre des vins secs sur un dessert au chocolat,
ouais.
Bon, après chacun fait ce qu'il veut, ça me regarde pas, hein, mais moi je participe pas au projet, hein.
Puis alors, on a soif,
puis alors le vin, il est foutu à poil, mais alors en deux secondes, quoi. Parfois, il n'existe plus. Hein.
Parfois, je triche en cours à Cormévin avec un grenache en légère surmaturité. Donc l'idée est la même, le lien logique est là. Voilà, exactement. Et le lien logique.
T'as pas un minimum de sucre, le vin, il est foutu à poil par le sucre du plat. Ça, il y a compliqué, je trouve. Après, il y a des gens qui adorent les accords avec des vins secs. Hein. de desserts avec des vins secs. Moi, très bien. J'en ai fait plein parce que ça m'intriguait quand même. Il y a beaucoup de gens qui disent, donc j'ai essayé, j'ai jamais trouvé quoi que ce soit qui fonctionne pour mon goût. Parce qu'il y a bien une dimension qu'il faut surtout pas oublier dans les accords mets vins, qui est quand même essentielle. C'est la première de toutes, c'est le goût de chacun.
Il n'y a pas d'absolu.
Ben non, c'est le goût de chacun. Vous pouvez parler avec des trémolos dans la voix de l'accord que vous venez de faire entre un chocolat amer et un vieux Porto. Si le mec en face, il aime pas le chocolat amer, ça va être très vite être compliqué quand même. Et de la même façon, par exemple, il y a un accord qui est incroyable, qui est ultra connu, qui est un vieux comté avec un vin jaune. Bon, bah, si le mec en face, il aime pas le vin jaune, faut passer son chemin, hein, parce que ça marchera jamais.
Ouais, les accords, c'est excessivement subjectif.
Ouais.
Après, il y a des façons de contourner ou de retrouver le lien logique des accords un peu classiques. Par exemple, les gens qui n'aiment pas le sucre, je pense, trouveront leur bonheur dans les vins de macération. Tu as des Gewürztraminer chez Pierre Frick, macérés mais en sec. Voilà. Donc, tu as toute la puissance aromatique et tout l'univers d'un moelleux et tu n'as pas le sucre. Mais ce soir, on
chez
aime
Philippe
le sucre.
Chez Brandt aussi, il y a des très, très, très bons vins de macération.
Ah ouais, magnifique.
Mais Frick, c'est des types absolument formidables.
Les petites pubs pour fric qu'on retrouve là où on s'est rencontrés au 38 Gourmet.
Voilà, c'est, un grand vigneron.
Près du marché de l'olive, et c'est un grand vigneron.
Très grand vigneron.
Il ne faut pas que je fasse de spoiler, mais je l'utilise énormément en cours parce qu'à l'aveugle, tu masques les gens et l'élève te dit c'est un vin rouge léger.
Ah ouais, ouais.
Voilà. Et non, en fait, c'est un vin.
Il faut aller voir. Blanc. Il faut aller le voir. Jean-Pierre Frick, il faut aller le voir chez lui, passer une heure, deux heures. Il reçoit avec une très grande gentillesse. Je vous jure que vous, même si vous n'aimez pas les vins, on peut ne pas aimer les vins, vous n'aurez pas perdu votre temps. Ça, c'est certain. Mmh. Un type absolument extraordinaire.
Une heure, deux heures passées dans le domaine Frick.
Ah ouais, franchement, c'est exceptionnel.
C'est le temps que tu viens de passer avec nous, Jérôme Gagnès.
C'est passé aussi vite qu'une émission sur Inter qui dure une heure. Mais sauf que là, j'ai eu plus de temps de parole. Je vous remercie beaucoup.
Oui, c'est vrai.
C'est une sorte de défouloir, en fait. Je me suis vengé de deux ans et demi de contraintes.
De brimade.
On parle que de vin ici aussi. C'est peut-être ça, la différence. On s'essaie un petit peu aux accords, mais on n'est pas dans une émission de gastronomie. Merci infiniment à tous d'être là. Merci d'abord à toi,
merci
Jérôme.
Merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir.
Écoute, plaisir à partager, évidemment. On a goûté tout un tas de vins merveilleux. J'ai du mal à me les rappeler tous.
Heureusement qu'avec les graines, on rentre à pied.
Oui, tout à fait. On va les mettre sur le site. Pour conclure, moi, sur ces vins sucrés, on a envie de dire donnez-leur leur chance, finalement, en dehors des vins de fête, en dehors du traditionnel sauterne foie gras. Essayez d'avoir des accords un peu plus rock'n'roll. Et puis, pourquoi pas, essayez de boire des vins moelleux au milieu du repas, de les sortir un peu...
Au goûter.
Quand on veut, au goûter.
Quand on fait des goûters d'anniversaire avec les parents, vous ferez plaisir aux parents.
C'est ça, ouais. Pour les goûter. À partir de 7 ans, c'est bon. Une chose, il y a sans doute des gens qui nous écoutent et qui aiment aller chez un caviste et faire une soirée à déguster 3, 4, 5, 20, comme ça. Et bien, j'ai pris l'habitude maintenant, notamment chez Laurent, parce que c'est souvent là que je vais pour passer une soirée de ce type-là, de finir avec un vin moelleux. Et c'est mon dessert, finalement. J'ai mangé un peu en amont au début. Finalement, je finis parfois par une tarte au chocolat. Mais finir avec un vin sucré,
toujours.
Ça vient compléter une sorte d'une dégustation avec quelque chose qui est souvent la dernière émotion. Celle qui reste. Et puis, comme tu le disais, Patrice, ça reste en bouche, ça donne de la longueur, ce sucre dans le vin.
Les vins moelleux, c'est l'occasion d'être surpris. Et la surprise, c'est quand même une grande partie de la vie.
Ça, ici, on a,
et
on
du
a,
plaisir.
On a souvent loué la surprise que peuvent nous réserver des bouteilles. C'est vrai aussi pour les secs. Hein. Parfois, et je vais revenir à quelque chose qu'on disait au tout début, mais Flight qui fait un Gewürztraminer hyper tendu, hyper sec, c'est aussi une émotion. On peut l'attendre sucré, et puis lui, il te surprend en faisant quelque chose de très vif.
L'épisode de janvier.
On les embrasse, Brigitte et Vincent Flight. Merci à tous. C'était l'épisode de Noël. Donc, vous allez peut-être l'écouter avant Noël, peut-être après, peu importe. On vous souhaite une excellente fin d'année à vous qui nous écoutez. On vous remercie de votre fidélité et des petits messages que vous nous envoyez. Nous suivre sur les réseaux, sur... je ne vais pas les énumérer aussi, Twitter, Instagram, Facebook, le site internet, lataraboire.com, tout ça, voilà, j'ai fini la petite promo. On se retrouve en 2020 avec plein de vins à découvrir, plein de vignerons à rencontrer, des gens passionnants comme Jérôme Gagnès ce soir, et puis d'autres qui parlent de vin, qui écrivent sur le vin, qui font goûter des vins, qui font la promotion des vignerons qu'on aime ici, les vignerons en général, les artisans, ceux qui font dans le naturel et qui parfois mettent un peu de sucre dans leur vin et ça leur va très bien finalement. Vive les vins sucrés, vive les bons et les beaux vins. Excellente fête de fin d'année, joyeux Noël et bonne année.
Merci.
Merci. Merci. Allez, à bientôt. Salut. 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 Salut.
Nothing is-